Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Rancière qui vous permet chaque semaine d'entendre la parole de notre évêque, Mgr Philippe Christoris, sur des sujets divers et variés, sujets de société, sujets d'église, sujets de foi, et parfois sujets théologiques, ça va être le cas aujourd'hui, on va parler un peu de théologie, mais avant tout, bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, heureux de vous retrouver après mon voyage, notamment au Gabon.
Voilà, et donc nous allons évidemment commencer par une relation sur ce voyage au Gabon, sur ce séjour au Gabon, et peut-être deux mots sur le catholicisme africain, dont on parle peut-être pas assez en France, parce qu'il est quand même très dynamique. Alors comment s'est passé votre séjour au Gabon? C'était à Oyem, je crois, une petite ville.
Oui, alors c'est le Gabon, c'est pas un très grand pays. C'est un pays très francophone et très francophile. Ils sont vraiment très liés à la France. Ils ont même souhaité être un territoire français, mais c'est le général de Gaulle qui avait à l'époque refusé. Donc c'est un petit pays qui se trouve sur la côte africaine, relativement sous l'équateur. C'est un pays tropical. La ville principale, c'est Libreville. Et nous avons voyagé jusqu'à Oyem, qui est vraiment dans la forêt tropicale. 600 km de route et de piste un peu cabossée. Pour vous dire, ça repose pas. Hein.
Mais, dans un 4x4 ou quelque chose comme ça, quoi. Dans
un véhicule 4x4, oui, bien sûr. Oui, ouais, tout à fait.
C'est sportif.
Un peu sportif. Après, une nuit d'avion, ça faisait beaucoup, oui.
L'accueil, j'imagine, africain, c'est-à-dire la joie, la liesse.
Ah oui, les gens sont assez incroyables. Dans les villages, ils se mettent avec des très jolies tenues, ils ont des magnifiques vêtements, ils s'accueillent, alors que dehors, c'est des maisons simples, c'est la forêt. Parfois, il n'y a pas d'électricité, parfois, il n'y a pas d'eau courante. Mais vraiment, quand on arrive, on est le visiteur. Pour vous dire, j'ai eu des messes de semaine, pourtant des messes simples, qui finissaient par une procession où tous les gens m'amenaient qui un régime de bananes, qui des ananas, qui du Coca-Cola, qui des objets de vannerie, des objets artisanaux, instruments de musique, et tout ça, on l'a porté aux visiteurs qui étaient honorés par le village, quoi.
Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un régime d'hospitalité exceptionnel, comme on ne le connaît peut-être pas en France.
Très, très généreux. Et alors, j'ai été accueilli par l'évêque d'Oyem, que je connaissais déjà, Mgr Jean-Vincent Ondo Eyene, et qui est un homme qui m'a aussi ouvert la porte de son évêché, qui est venu me récupérer à l'aéroport, donc qui a fait toute la route pour ça, aller-retour, 600 km de piste, et qui m'a raccompagné à la fin de mon séjour jusqu'à l'aéroport. Donc, en disant, vous êtes mon invité, je suis avec vous. J'avoue que j'ai pris une bonne leçon de générosité.
Ouais. Ce séjour, alors comment s'est-il passé? Vous avez pu aussi parler avec tous ces gens. Qu'est-ce qu'ils nous disent finalement de leur foi, de leur vie?
En fait, j'allais parce que on a des prêtres dans ce diocèse de Chartres qui viennent de Oyem. J'y allais aussi parce que c'était l'occasion de voir leur pays d'origine, de mieux comprendre. Et c'est vrai que ça était court, sauf que c'était un peu écourté à cause de la décision du gouvernement de fermer les frontières hors Schengen. Donc il a fallu que je rentre un peu plus tôt. Mais ça a été très fécond parce que quand on voit les choses, on ressent, on voit les gens qui vivent là-bas. J'allais parce qu'il y avait des ordinations de prêtres, il y avait 4 nouveaux prêtres ordonnés et 4 nouveaux diacres ordonnés, et j'ai pu être aux célébrations qui ont duré 3h30 en présence de plusieurs ministres d'État, donc un grand, grand événement pour Oyem. Et j'ai parlé beaucoup aussi, effectivement, avec tant des prêtres que des laïcs, notamment un couple que j'ai découvert, Urbain et Marceline, qui sont à Libreville et qui ont une polyclinique qui est renommée, et un couple profondément catholique qui est vraiment dans la foi.
Ouais. Des relations épiscopales existent avec d'autres diocèses d'Afrique.
Oui, parce qu'on a...
sont vraiment suivies profondes.
Comme Chartres n'est pas trop loin de Paris, on a plusieurs prêtres étudiants qui vont étudier à la Cato de Paris notamment. On les héberge, on les accueille, on les finance aussi, ça aide aussi ces églises d'Afrique. Mais on a quand même des relations privilégiées, particulièrement avec Oyem, donc avec Nouna qui est au Burkina Faso, avec Mopti au Mali, quelques liens avec Bafia au Cameroun, et puis d'autres prêtres viennent d'ailleurs. Mais on essaie un petit peu quand même de garder des liens privilégiés. Je vois que c'est très important de créer la confiance, de se connaître pour le bien des églises locales, la nôtre comme la leur, et de correspondre par la venue de prêtres qui viennent passer un séjour. Ça nous enrichit, ça les enrichit. Enfin, tout le monde est gagnant dans cette relation.
Ouais. Alors, ce catholicisme africain, je disais qu'il était dynamique, mais il est aussi, d'une certaine manière, à la fois menacé par l'islam et par les églises évangéliques qui poussent comme des champignons.
Oui, alors, au Gabon, c'est quand même 80% de catholiques. Une église qui doit quand même faire un choix. C'est-à-dire que le choix, c'est le choix de la radicalité, du témoignage, du martyr au sens du témoignage. Alors qu'elle peut être tentée par une forme de compromission avec l'esprit du monde. Et l'esprit du monde au Gabon, c'est aussi beaucoup la corruption. C'est un pays qui est, je crois, très corrompu, en tout cas à un haut niveau. Il y a beaucoup d'argent, mais l'argent est détourné. Donc c'est un peu un problème pour l'Église de se situer d'une manière différente et d'être vraiment témoin du service de tous, des pauvres, d'accueillir les gens. Dans d'autres pays, c'est pas trop le cas du Gabon, il y a effectivement l'islam qui pousse beaucoup et qui pousse un peu les chrétiens, un peu comme le coucou pousse les petits hors du nid. Donc l'Église répond pas par la même façon, elle répond par sa charité, par ses engagements très nombreux, éducatifs et caritatifs. Elle est vraiment aux avant-postes des soins donnés aux gens. Et les écoles catholiques sont très recherchées, même par des pas chrétiens, oui, qui vont vers ces écoles parce que les gens savent que c'est de la qualité.
Deuxième sujet, ben, je voudrais qu'on revienne éventuellement sur l'Eucharistie, mais à la lumière de votre dernier message fraternel, qu'on peut lire sur le site du diocèse de Chartres, je le rappelle. Moi, une chose m'a frappé, le christianisme, dites-vous, n'est pas une religion du livre comme le sont le judaïsme ou l'islam. Jésus n'a pas écrit, il a parlé. Et ses paroles ont été conservées. C'est vrai, ça, on n'y pense pas.
En fait, on voit Jésus écrire une seule fois. Il écrit avec sa main sur le sol quand on lui amène une femme adultère qu'on veut lapider. Et on lui demande, que dis-tu par rapport à ça ? Le Moïse a dit de la lapider, que dis-tu ? Et donc, il ne fait rien sauf écrire par terre. On ne sait pas ce qu'il écrit d'ailleurs.
On ne sait pas ce qu'il écrit, c'est ça qui est terrible.
Et il finira par dire cette fameuse phrase que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et tous s'en allèrent, à commencer par les plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Donc, et il dit à cette femme, voilà, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc, mais par contre, effectivement, parfois nous sommes vus comme une religion du livre parce qu'on a un livre quand même qui s'appelle la Bible, qui est l'héritage juif auquel s'ajoutait la partie chrétienne. Mais certains nous disent, notamment les musulmans, disent que nous sommes une religion du livre, comme eux le disent pour eux. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas adeptes d'un livre. Nous sommes des disciples d'un homme qui est vivant, qui a promis d'être toujours avec nous, qui est Jésus-Christ. Donc on suit quelqu'un, on ne suit pas un livre.
Ouais. D'ailleurs, l'Évangile fait l'objet d'interprétations, ce qui est impossible avec le Coran, puisque le Coran est un créé. Donc c'est vraiment une relation plus vivante, en tout cas avec le texte.
Voilà, pour nous, il y a un livre inspiré. L'Esprit-Saint, pour nous, a inspiré les auteurs, qui sont des êtres humains, de chaque partie de la Bible. Maintenant, ces écrits qui demeurent sont un peu comme une partition de musique qu'on va devoir jouer avec un instrument. L'instrument, c'est quoi ? C'est la vie d'aujourd'hui. Ma vie d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 200 ans ou 1000 ans. Donc chacun, en son temps présent, contemporain, doit trouver le chemin de vivre cette même parole à l'écoute de quelqu'un qui est présent, qui est, lui, la vérité, Jésus, mais inspiré par l'esprit, avec des questions qui sont nouvelles. Voilà, la pandémie, par exemple, est une question nouvelle parce qu'elle est mondiale, parce qu'elle nous touche tous. Comment vivre ce temps de pandémie, par exemple, à la lumière de l'Écriture ?
Jésus, vous dites que nous suivons une personne, finalement. Pas un livre, mais une personne. C'est important, ça. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, c'est la foi que nous confessons. Comment peut-on, alors je sais que c'est une question terrible, mais comment peut-on être en même temps homme et Dieu ?
Ça paraît très théologique et presque un peu abstrait, mais d'abord Jésus, c'est un homme qui naît d'une femme, qui est mariée. Il est né, elle a accouché, elle a mis au monde, donc il est vraiment un être humain dans sa chair, dans son corps, sauf qu'il a été déposé en elle par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est le Verbe divin, la parole qui est descendue dans Marie. Elle n'a pas eu de rapport charnel avec quiconque. C'est le grand mystère de l'incarnation. Et donc, celui qui vient en elle prendre chair est divin. Et c'est pour ça qu'on va dire, effectivement, que Jésus est vrai homme et vrai Dieu en même temps. Mais il est apparu comme un homme à ses disciples, à ses contemporains. Mais les gestes, les paroles, les miracles, les guérisons, les résurrections qu'il a effectuées, eh bien, ont convaincu les chrétiens qu'il est vraiment Dieu fait homme. Et c'est pour ça qu'on dit effectivement dans le credo, qui est la formule de proclamation de la foi chrétienne, qu'il est un seul, une seule personne, vrai Dieu et vrai homme.
Le fait de suivre un homme comme nous le faisons, c'est ce qui explique aussi l'attachement, plus qu'aucune autre religion, l'attachement du christianisme à la personne humaine, à son intégrité, sans doute.
Oui, parce que le fait que Dieu prenne chair dit la valeur de la chair. Il y a eu des courants de pensée, des gnoses notamment, qui excluaient la chair, la matière, comme étant vile. Un peu comme Platon disait que le corps est la prison de l'âme, et qu'il fallait donc se libérer de cette matière, cette chair, parce que seul l'esprit avait de la valeur. Le risque de ça, c'est qu'on fait du coup n'importe quoi de cette matière, cette chair. Or, le fait que nous sommes créés avec un corps, par Dieu, à travers bien sûr l'engendrement que vivent nos parents, enfin qui nous mettent au monde, dit le respect de ce corps. Le corps a une dignité infinie, il n'est pas là pour être manipulé, pour être vendu, pour être trafiqué, pour être abusé. Il nous faut, bien sûr, respecter ce corps.
C'est ce qui explique les positions de l'Église sur les questions à la fois de l'euthanasie, mais aussi de l'avortement, etc.
Oui, parce qu'une fois qu'un être humain est là, il peut être dans le sein maternel, il est unique. Cet être humain que porte une femme a un corps spécifique. La femme le porte, mais ce n'est pas son corps à elle, c'est dans son corps à elle, mais c'est un corps autre. C'est un autre ADN, d'ailleurs. Et puis, la fin de vie, c'est qu'un être humain a peut-être des fatigues, devient dépendant, a besoin de soins et d'accompagnement, il n'en reste pas un être, enfin il en reste un être humain, il reste un être humain digne de tout respect, et ne serait-ce que parce qu'il a construit une relation avec d'autres, il a aimé, il a été aimé, il est toujours aimé, et donc bien sûr que la fin de vie doit être un temps de grand respect du corps.
Ouais. Il me reste encore une question à vous poser sur Jésus mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts, qui dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Mais je vous la poserai la semaine prochaine parce qu'on n'a plus le temps d'y répondre.
Il y a beaucoup de choses à traiter, à voir ensemble, mais c'est passionnant.
Merci beaucoup, Monseigneur. Je rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez continuer, que vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Rentiel, www.radiorentiel.fr. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons nous retrouver. Restez fidèles à l'écoute de nos programmes. Radio Rentiel, c'est la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.